Vous écoutez Infusion Positive, un podcast où Estelle et Catherine diffusent des clés sur le bien-être et le bonheur. Bonne écoute!
Bonjour Estelle!
Bonjour Catherine!
Et bienvenue à vous qui nous écoutez pour ce nouvel épisode d'Infusion Positive. Aujourd'hui, jour où on publie l'épisode, c'est la rentrée pour la plupart, le 19 août 2024. Et peut-être certains se réjouissent de retourner au travail, peut-être certains écoutent cet épisode après avoir passé leur journée au travail et ont été heureux d'avoir retrouvé leur poste, ou peut-être pas, peut-être que c'est pas aussi agréable que ça. Nous, dans cet épisode, on a envie de revenir sur les clés du bien-être au travail, de vous transmettre un petit peu la vision que l'on partage avec Estelle sur cette dimension. Et comment est-ce qu'on peut s'épanouir dans son travail, dans sa contribution dans le monde. Et aujourd'hui, donc déjà Estelle, ce que je peux te poser la question pour toi, c'est quoi ton bien-être au travail? Comment est-ce que tu le vis?
Alors j'ai créé, je pense, mon bien-être au travail. Je reste convaincue qu'on peut aussi influencer un petit peu tout ça. J'ai la chance en tant qu'indépendante de pouvoir choisir ce que je veux faire. Ou pas. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile quand on est indépendant. Mais personnellement, je suis heureuse dans mon travail parce que j'ai une variété dans ce que je fais. J'ai tant du cabinet que des consultations avec des managers, des interventions en entreprise. Et j'adore cette variété, c'est ce qui me nourrit. Moi, je me sens heureuse au travail. Quand je sens que j'ai vraiment contribué au développement des personnes que j'accompagne, ça me rend heureuse, ça me nourrit. C'est vraiment ce qui me nourrit au quotidien. Peut-être est-ce qu'on peut nommer justement les clés, tu parlais des clés du bien-être au travail, sur quel modèle on se base et lequel on aimerait aborder aujourd'hui?
Donc oui, nous on collabore avec l'entreprise PeopleUp, avec qui on collabore sur des projets de bien-être au travail, et puis qui a développé un modèle que j'aime beaucoup présenter dans les workshops que j'anime, notamment en lien avec la psychologie positive et des clés qui contribuent au bien-être au travail. Et déjà dans cette première étape, c'est de prendre conscience qu'il y a une différence entre la satisfaction au travail et le bien-être au travail. Dans ce que tu nommes tout à l'heure, eh bien, on voit bien que c'est des émotions positives que tu racontes, plutôt que les conditions de travail proprement parlées. C'est pas le salaire, la place de parc, l'accessibilité. Tout ça, ça va contribuer évidemment à ton confort de vie au travail, et puis dans ton confort de vie de manière plus globale, les horaires, etc. Mais c'est pas forcément ça qui va te rendre plus heureuse ou plus motivée à effectuer ton travail. Dans l'accompagnement de tes patients, même si t'as pas de place de parc ici à Lausanne, tu es engagée pleinement dans ton travail. Donc c'est vraiment cette notion d'engagement. Comment je m'engage, et en fait, plus je vis des émotions positives, et plus je peux me sentir heureux, d'une certaine manière, contribuer de manière efficace dans ma mission. Donc peut-être Estelle, je te propose qu'on aborde ces 5 clés qui génèrent des émotions positives. Par laquelle on commence?
Par exemple, la reconnaissance. La reconnaissance, tu parlais avant du salaire, la reconnaissance, c'est pas uniquement la reconnaissance salariale, la reconnaissance par des bons points ou un bonus dans certaines entreprises. Pour nous, elle qualifie vraiment sur un autre plan. C'est comment est-ce que je te reconnais en tant que collaborateur, collègue, en te remerciant, en étant dans la reconnaissance des petits et grands accomplissements, mais la reconnaissance sincère du quotidien. C'est pas le merci à tout va, sans aucun sens, mais vraiment je remercie sincèrement pour tel ou tel acte, en mettant vraiment un contexte particulier. Ça peut être la reconnaissance d'une équipe qui a réussi un objectif, ça peut être plein de choses de ce type-là. Moi j'aime bien dire souvent, il y a des entretiens annuels dans beaucoup d'entreprises, c'est d'ailleurs ce qu'on recommande de faire, et parfois c'est que là que les collaborateurs vont être reconnus, remerciés, félicités. Et qu'est-ce que c'est triste, et ça nous touche beaucoup toutes les deux quand on entend ce genre de choses, parce que non, la reconnaissance elle est au quotidien. On devrait sentir ça, c'est se sentir vibrer d'une reconnaissance au quotidien par nos pairs, par notre hiérarchie, et ça peut aller dans les deux sens d'ailleurs.
Absolument. Souvent, on s'attend à la reconnaissance top-down, alors qu'en fait, quand
ça marche bien aussi,
cette énergie, elle circule de manière efficace. Donc, quand il y a vraiment cette culture de la reconnaissance, ça va dans tous les sens. Ouais. On se reconnaît tous, et même des clients, dans tous les sens. Ouais. Donc, la reconnaissance aussi, c'est comment je me reconnais aussi.
Oui.
Ça commence aussi là, en fait. Comment déjà moi-même, je suis suffisamment satisfait de ce que je fournis dans mon travail. Donc, comment est-ce que je me remercie?
Comment je me valorise? Comment je suis valorisée au sein de l'équipe, de l'entreprise? Et comment je valorise mes collègues?
Et comme tu l'as nommé, c'est pas uniquement se remercier, c'est aussi s'intéresser. simplement en questionnant « Ah, t'en es à quoi dans ton projet ? Ça consiste en quoi ?» Enfin, toutes ces questions vraiment d'intérêt, sincères, évidemment. Eh bien, je me sens reconnue. Mmh. Et c'est vrai que j'ai questionné et audité des centaines de personnes, maintenant, je pense, sur la question de la reconnaissance. Et on voit à quel point c'est différent d'une personne à l'autre.
Tout à fait.
Et souvent, on s'attend à ce que ce soit juste un merci, alors que c'est bien plus large que ça. Mmh. Donc déjà, vous, questionnez-vous, en fait, comment, c'est quoi mon idéal de reconnaissance ?
Comment je me sens reconnue ? Qu'est-ce qui me permet de me sentir reconnue ?
Et d'activer, de nommer ce besoin s'il n'est pas nourri et rempli. Donc ça, c'est une des premières clés, la reconnaissance. Une deuxième clé qui est importante aussi, c'est la possibilité de s'accomplir, de progresser, de sentir qu'on évolue dans son poste. Pas forcément en termes d'évolution hiérarchique, mais ça peut être vraiment dans ses compétences, sentir qu'on s'accomplit même à la fin d'une journée, sentir cet accomplissement dans de nouveaux projets qu'on va défendre, ou dans des compétences que je n'avais pas il y a peut-être une année en arrière et aujourd'hui j'y arrive. Et bien c'est aussi de s'observer dans son évolution. Et ça, vraiment, en tant qu'humain, on a ce besoin de progresser, de sentir qu'on évolue.
Et qu'on a l'espace pour le faire. On nous offre cette possibilité. Il y a des lieux de travail où, malheureusement, on promeut peu comme ça l'évolution, les formations, le développement. Et on voit à quel point ça va avoir un impact négatif. Donc, soi-même, de se donner cette possibilité, mais aussi d'être dans un environnement qui le permet.
Et puis, ça me fait rebondir sur le fait qu'il y a vraiment cet accomplissement, ce développement tant dans ses compétences métiers et aussi toutes ces compétences socio-émotionnelles aujourd'hui qui sont de plus en plus valorisées dans les entreprises. On se rend compte à quel point d'avoir cette intelligence émotionnelle, elle est vraiment utile aussi à la performance et qu'il n'y a pas que les compétences métiers à développer. Donc, clé numéro 2, le fait de progresser.
Une autre clé qu'on peut aborder, la clé du sens. Quel est le sens de ma mission, du travail que j'accomplis tous les jours ? Le sens, il ne se définit pas que par un cahier des charges écrit sur un bout de papier. D'ailleurs, on ne sait peut-être même pas comment il est défini. Mais c'est vraiment quel est le sens de ce que je fais tous les jours ? Et le sens, parfois, il est bien plus grand et au-delà, justement, de ma fonction propre. Tu disais tout à l'heure, contribuer à plus grand que soi. Ben pour moi, le sens, il répond vraiment à ce point-là. Hein. C'est comment est-ce que je contribue à plus grand que moi ? À quoi je réponds par ma mission de tous les jours ? Qu'est-ce que j'accomplis ? Ça me rappelle d'ailleurs un exemple que j'avais vécu à l'hôpital. Une personne de l'intendance qui venait dans une chambre d'un de mes patients, qui nettoyait la chambre, qui rangeait les affaires et qui m'expliquait à quel point elle veillait à ce que tout soit bien au bon endroit et bien adapté. Parce que cette personne avait des troubles de la mémoire, de l'orientation, et donc il fallait que le calendrier soit au bon endroit. Elle était vraiment consciente au-delà de juste sa tâche qu'on pourrait réduire à nettoyer la chambre. Pour elle, c'était bien au-delà, c'était prendre soin d'une personne hospitalisée pour que son séjour se passe le mieux possible et qu'elle bénéficie de la rééducation, de sa neuro-rééducation. Elle avait même conscience des troubles alors qu'elle n'était pas dans nos colloques d'équipe pour savoir quels étaient les troubles de la personne. Et il y avait vraiment une conscience qui, pour moi, témoignait justement de tout le sens qu'elle mettait dans son travail au quotidien. Et elle n'aurait pas eu le même sens si elle faisait la même fonction dans un autre domaine. Donc ça l'animait et c'est vraiment ça qui l'a motivée à travailler et qui contribuait à son bien-être au travail.
Il y a des recherches qui sont faites d'ailleurs dans les hôpitaux sur le sens au travail et puis ce que tu racontes est décrit. Et ce qu'ils montrent dans ces études, c'est à quel point, peu importe le statut, on peut avoir du sens à trois niveaux différents. On peut se sentir en vocation et puis ce que tu décris là, pour elle, elle contribue au rétablissement du patient dans sa mission. On peut aussi avoir vraiment ce sens plus en lien avec l'évolution de carrière. Et puis peut-être que cette personne, ensuite, elle peut avoir une petite équipe, des responsabilités complémentaires, etc. Et puis en fait, c'est ça qui la motive, c'est avoir toujours plus de responsabilités, et puis peut-être un jour diriger le service. Et puis, il y a aussi un autre niveau qui est le niveau simplement alimentaire. Et là, vraiment, je fais juste ma tâche. Et bien justement, quand on pense aussi au personnel d'intendance à nouveau dans les hôpitaux, et bien si je viens juste faire ma tâche, et bien je ne m'intéresse pas au patient et je ne lui pose même pas la question comment il va, je fais juste ma tâche. De nouveau, quand on pense au sens au travail, évidemment que toutes les personnes qui nous écoutent, on sait bien, on travaille pour avoir un revenu, pour justement s'alimenter. Mais si je reste que là-dedans, et bien effectivement, je peux me réjouir de ma pause, de ma fin de journée, de mes vacances, de la retraite. Et quelque part, comment est-ce que je peux peut-être mettre plus de sens dans mon travail ? Peut-être que je peux trouver un autre axe dans le cadre de mon travail pour mettre plus de sens, pour que je sois plus épanouie aussi. Mm-hmm. Parce qu'à nouveau, on ne l'a pas dit en introduction, mais on y passe tellement d'heures.
Mais oui.
On y passe tellement de temps qu'effectivement, de pouvoir avoir une autre dimension que juste l'alimentaire, eh bien, ça nous semble effectivement important. Maintenant, on peut tout à fait, dans sa journée, être traversé par des moments où on sait que cette tâche, c'est vraiment alimentaire, comme quand je fais ma facturation.
Par exemple.
Et voilà, et pour d'autres, c'est, et dans cet hôpital, par exemple, pareil, il y avait des médecins pour qui c'était alimentaire aussi, peut-être aussi à une période de sa vie où notre travail, c'est que fonctionnel, parce que c'est comme ça. Mais par contre, d'avoir conscience aussi, ben tiens, moi, mon travail, si je ne suis pas heureux, parce que le sens, je ne m'y retrouve pas, c'est comment est-ce que je peux aussi en remettre. Et d'ailleurs, ça me fait encore rebondir sur ça, par rapport au Covid, où beaucoup de personnes ont perdu le sens de leur travail et ont dû réinventer un sens pour être alignées à nouveau à leur valeur et à leur vision.
Oui, c'est un bel exemple, hein. Une opportunité pour beaucoup de gens de rebondir. Bien, c'était la troisième clé, le sens. Quatrième clé,
l'autonomie. Comment est-ce qu'on développe son autonomie dans son travail? Est-ce qu'on a suffisamment de latitude pour décider, pour exprimer son talent? Ou alors, à l'inverse, est-ce qu'il y a multitude de processus, de contraintes organisationnelles et je ne peux pas avoir l'autonomie de me commander un stylo?
De contrôle aussi, de surcontrôle, de peu de responsabilités, peu de possibilités de décider, de contribuer, d'être acteur de changement, de décision au sein de mon travail. Si je me sens complètement enfermé, restreint comme ça dans ma capacité d'agir, de me mouvoir simplement, on sait que ça a un impact. Donc pour contribuer à notre bien-être au travail, plus on a de l'autonomie, plus on nous donne des tâches, des responsabilités, des objectifs, à nouveau en fonction de nos besoins. Parfois on en a besoin de beaucoup, parfois moins, mais on sent qu'on a cette possibilité. Et dans ce cas, effectivement, ça contribue à notre bien-être.
À l'inverse, quand on nous donne parfois trop, ça j'ai aussi pu l'observer, de personnes à qui on donne toute l'autonomie, pas comme tu penses.
Ça convient
et
pas.
Et ça convient pas non plus pour certains, on a besoin d'avoir un cadre, donc c'est avoir la liberté dans un cadre qui est défini et puis dans lequel je me sens suffisamment en sécurité aussi.
Et on voit avec les différents modèles de management, des entreprises qui changent comme ça de modèle de gouvernance, on passe d'un management parfois très contrôlé, directif, hiérarchisé, un management peut-être collaboratif, participatif, voire même libéré, où là, ça change complètement l'autonomie qui est laissée aux collaborateurs. Et pour certains, ben, on n'est pas toujours aligné avec le modèle et on peut correspondre à un style de gouvernance et pas à un autre. Donc ça demande pas mal de flexibilité aussi aux collaborateurs, parfois.
Et pour finir, la dernière clé qu'on a déjà abordée dans un autre épisode, qui est vraiment une clé super importante, hein, parce que très souvent d'ailleurs, moi, les personnes que j'ai en consultation pour des situations au travail qui sont en souffrance au travail, sont en lien avec les collègues, la
connexion aux autres.
Comment je suis dans mes connexions avec mes collègues, ma hiérarchie. Souvent, c'est un facteur de souffrance au travail. Par contre, quand ça se passe très bien, c'est vraiment une source de bonheur, de partage, de collaboration qui peuvent être tellement riches. C'est de nouveau, comme on passe beaucoup de temps avec ces personnes, et bien d'avoir de bonnes relations avec ses collègues, ça semble vraiment important. Ça ne veut pas dire être amis et puis partir en vacances ensemble, mais par contre, d'avoir des relations qui soient constructives, qui soient positives, qui soient respectueuses surtout, et dans lesquelles en fait on peut être soi.
Et nous, on l'observe hein, quand on accompagne des équipes dans les entreprises ou quand on accompagne des dirigeants, on observe souvent à quel point c'est un facteur important. Quand ça roule, ben, on n'entend que ça. Oh, j'ai des collègues géniaux, je m'entends tellement bien, j'ai une super équipe, l'ambiance, c'est aussi pour ça que je reste, j'adore l'équipe. Donc c'est vraiment des choses qui vont être mises en avant. Et au contraire, quand ça commence à grincer, ça peut être avec une personne. Ça peut être un groupe, mais ça peut vite avoir un impact important et avoir des répercussions énormes sur une personne ou une équipe. Donc, comment promouvoir des interactions sociales positives? Comment favoriser des bonnes interactions au sein de l'équipe, avec sa hiérarchie, avec ses collègues directs? Ça se soigne, ça appartient autant à un chef d'équipe qui doit prôner un style de management bienveillant, à l'écoute, ouvert, et tout ce qui va avec. Mais ça appartient aussi à l'équipe et à chacun. Chacun de l'équipe porte une responsabilité pour que l'ambiance soit positive et que ça marche.
comment est-ce que je contribue positivement à ça.
Exact.
Et c'est vrai, ça me fait souvent sourire parce que souvent les personnes me disent « Ah, on aimerait arrêter ces commérages. » Et en fait, ils sont nourris par qui ?
Les fameuses discussions de café.
Et c'est vraiment comment chacun se responsabilise, comment chacun est proactif et comment chacun promeut cette éthique au travail dans les relations, qu'elles soient justement constructives et positives.
Bien, nous avons donc résumé les 5 clés de ce modèle People Up qui sont la reconnaissance, l'accomplissement, le sens, l'autonomie et la connexion. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer à nos auditeurs comme conseil suite à cette énumération des clés ?
Eh bien moi, je vous inviterais à prendre conscience de votre niveau de satisfaction par rapport à chacune de ces clés, de manière totalement subjective. Comment est-ce que vous, déjà, vous vous situez par rapport à ces 5 clés et peut-être décider, choisir en conscience de développer l'une de ces clés et de peut-être en discuter avec votre hiérarchie, selon peut-être les besoins qui sont à développer.
Très bien, merci Catherine pour cet épisode et merci à vous de nous avoir écoutés.
Merci Estelle et bonne infusion.
Et si cet épisode vous plaise et que vous souhaitez approfondir des thématiques que nous abordons dans nos podcasts, nous organisons régulièrement des workshops.
Et nous pouvons également en organiser sur mesure. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail suivante info@ineza.ch. On aura le plaisir de répondre à vos demandes.